Nous allons maintenant donner la parole à nos deux commentateurs. Madame Feuillas, c'est à vous.
Oui. Bonjour à tous. Plus proche. Bien. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Berthos, de m'avoir donné cette occasion de réagir en direct. C'est une, tout le monde l'a dit, c'est une opération qui n'est pas très simple. Je vais essayer de me conformer aux prescriptions qui m'ont été données, c'est-à-dire de réagir ce que ça évoquait pour moi et confronté à ma pratique professionnelle, et puis aussi vous livrer quelques suggestions de problématiques de recherche qui, en tout cas, nous intéressent au niveau du management dans les entreprises. Alors, je ne sais pas très bien par quoi commencer. Je vais peut-être revenir à l'intervention de M. No. Je voudrais le rassurer, puisqu'il me semble que le manager fonctionnel existe. Alors, je ne sais pas s'il a exactement le profil qu'il évoque. En tout cas, c'est assez central. C'est un mode de management qui existe évidemment depuis longtemps, mais qui aujourd'hui tend à se développer, en effet. Le point qui me paraît important, il y a un certain nombre de conditions préalables. La première, je crois, c'est l'importance que ce manager... Vous avez évoqué un point sur lequel je suis un petit peu en désaccord, c'est sur le fait qu'il n'ait pas de force et qu'il ne fasse jamais valoir sa puissance. En fait, un manager fonctionnel, il a toujours une autorité qui est liée à la raison pour laquelle il a été mis en place. Autrement dit, si c'est un projet, il y a un promoteur de ce projet, et ce projet dans l'entreprise a une valeur, a un sens. Donc, en situation difficile, à des moments de remobilisation des équipes ou de dérive de certains projets, il va référer à cette autorité supérieure qui va lui donner ce poids. Mais sinon, je partage bien sûr votre analyse. Et je crois qu'un des points de réussite majeure pour ce manager fonctionnel, c'est de perdre du temps au départ pour s'assurer que l'ensemble des acteurs du projet, quelle que soit leur structure d'appartenance, partage les objectifs du projet. Il va y avoir tout au long de son management des ajustements en permanence. Je retrouve des choses intéressantes qui ont été dites tout à l'heure par M. Lorino. C'est également vrai, bien sûr, dans le management de projet. Et tout au long de la vie d'un projet, surtout quand il se produit sur plusieurs années, il est fondamental pour lui de pouvoir sans arrêt se référer et revenir, s'assurer que les objectifs du projet sont toujours partagés. Je crois que ça, c'est vraiment une des conditions de réussite. Le deuxième aspect, le groupe La Poste est un groupe public qui 300 000 personnes, donc vous vous doutez que le management opérationnel prend une grande place et il est extrêmement valorisé. Et pendant très longtemps, on a eu du mal à faire reconnaître l'importance du management, en particulier fonctionnel, alors qu'il est évidemment très présent. Et moi, j'avais tendance souvent à faire un pronostic très favorable dans la capacité des personnes qui avaient assuré des grands projets, dans leur capacité ensuite à assurer de la direction d'établissements très importants ou de directions très importantes. Parce que, comme vous l'avez très bien mis en évidence, lorsque l'on a été en capacité de mobiliser des équipes, de domaines très différents et que l'on a atteint les objectifs alors même que nous n'avions pas l'autorité hiérarchique, alors je dirais lorsque cette autorité hiérarchique en plus est reconnue par la structure, ça ne peut qu'aller très bien. Voilà, ça c'est le premier aspect que je voulais mettre un petit peu en évidence. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à faire, je vais essayer de ne pas prendre tout le temps. Sur l'intervention de M. Lorino, j'ai été particulièrement intéressée par cette mise en perspective du système organisationnel d'activité collective. Le fait que l'organisation est en perpétuel mouvement, et en particulier, il y a deux aspects qui m'ont intéressée. Le premier, et d'ailleurs fait écho aussi à la réflexion de M. Bartoli sur la gestion des ressources humaines, une problématique qui est centrale pour nous aujourd'hui, c'est en particulier la coopération et la synergie entre les acteurs. C'est un point que le président Jean-Paul Bailly au sein de La Poste promeut de façon très forte et qui nous pose un tout petit problème pratique. Nous avons d'une part un discours très fort sur cette synergie importante, sur cette coopération, mais par contre, nous n'avons pas encore réussi à faire remettre en cause les modes d'évaluation de la performance. C'est-à-dire que nous avons un système d'évaluation qui est uniquement et 90% basé sur la performance individuelle, alors même que l'on a un discours sur la synergie et la coopération. Je ne sais pas d'ailleurs comment très bien le résoudre. Il y a eu un certain nombre de travaux de la psychosociale et les expériences que nous avons pu mener nous ont démontré leur validité, qui est que lorsque on essaie de mettre des critères d'évaluation collectifs, alors la performance globale diminue. Donc ça nous pose une vraie problématique, et ça c'est un champ de recherche qui nous intéresse évidemment beaucoup. Il est étant entendu que, et là ça fait référence plutôt à la session de ce matin, ces évaluations ont un impact direct sur la rémunération, et sur une bonne partie de la rémunération, ça peut aller jusqu'à 30% pour des managers de haut niveau. Donc ça c'est une vraie problématique pour nous, et merci si le monde de la recherche peut nous aider là-dessus. Sur le deuxième aspect de l'organisation dialogique, le point qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui sur la nécessité pour l'organisation de s'interroger continuellement sur les évolutions de son environnement et de s'adapter en permanence. Juste faire un petit témoignage d'une démarche que nous avons, dans laquelle nous sommes totalement partie prenante. Nous avons décidé, à la demande du président du comité exécutif du groupe, de réfléchir aux évolutions de l'environnement, qui pas spécialement de la poste en tant que telle, mais de l'environnement, et en particulier, quels sont tous les signaux faibles qui nous permettent collectivement de partager. Alors, quand je dis collectivement, la population dont je m'occupe est essentiellement composée des 300 dirigeants du groupe, donc une population relativement restreinte. Mais la démarche qu'on a entreprise avec eux, c'est de les amener à avoir une réflexion d'enquête, de vigilance sur l'ensemble des signaux faibles qui sont autour de nous et qui nous permettent de porter un regard commun sur ce que sera le travail demain. C'est-à-dire comment les gens vont travailler dans 4, 5, 10 ans. Et on réfléchit actuellement à qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exigence managériale. Et c'est une opération que l'on essaye de mener collectivement. La dernière fois, nous l'avions fait en 2004, et c'est ce profil un petit peu du manager de demain qui, à l'époque, nous avait servi dans le profil d'évaluation de la contribution de chacun à son poste. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire que nous avons l'intention d'aller vers des sortes d'exigences managériales nouvelles. Ce qui est important simplement dans la démarche, c'est que ce sont des exigences qui sont construites par les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire par les dirigeants qui vont être ensuite évalués là-dessus, recrutés là-dessus et qui auront tout leur déroulement de carrière sur cet aspect, c'est eux-mêmes qui les construisent. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Et puis, je terminerai peut-être par quelques petits points de préoccupation complémentaires. J'ai évoqué le processus d'évaluation individuelle. Un autre aspect qui apparaît dans la présentation de M. Bartoli qui m'a... On a évoqué des organisations de la fonction RH. Je crois que vous avez le regard que vous portez porte bien sûr sur des groupes internationaux. C'est pas complètement faux dans des groupes franco-français, hein, ceci dit. Le point qui me paraissait intéressant, c'est que nous avons des processus souvent qui limitent la marge de manœuvre des managers. Et ce matin, la réflexion sur la reconnaissance m'a passionnée. Et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est comment rendre la main aux managers de proximité, comment les responsabiliser. Ils nous disent souvent, vous nous avez responsabilisés sur les résultats, mais vous ne nous avez pas responsabilisés sur notre marge de manœuvre et de décision. Et en particulier, c'est lié à la taille de l'organisation, c'est lié au fait que c'est une entreprise en réseau, et que de fait, il y a tout un ensemble de processus extrêmement rigides. Donc là, il y a vraiment une mise en tension, à la fois d'un besoin qui est partagé par tout le monde d'une autonomie de décision, et par des processus indispensables par ailleurs, et relativement... voilà. Bon, j'aurai encore plein de choses à dire, mais je vais peut-être laisser à mon collègue la parole.
Merci. Monsieur Weimar.
Voilà, pardon. Merci, monsieur le professeur. Oui, merci, monsieur le professeur Berthaus, de me donner quelques moments de réaction face aux exposés qui, ce matin, s'enchaînaient. Je trouve qu'on était presque dans un storytelling. Aujourd'hui, on voit bien qu'on doit travailler ensemble. Et que le manager, ben, c'est lui qui apporte lourdement au sein des entreprises cette responsabilité du travail collectif et du travail collaboratif. Et on doit le faire dans des organisations qui sont toujours en changement. Il n'y a aucune organisation, à mon sens, idéale, mais des organisations qui changent, qui doivent s'adapter. Ça parce que les technologies changent, les informations sont immédiates maintenant. Quand on fait un plan, on sait qu'on ne pourra jamais le mener au bout, parce qu'il y aura des impacts nouveaux qui viendront le faire évoluer. Donc, travailler ensemble dans des organisations qui changent, et que la variable d'ajustement pour permettre cela, c'est l'homme en situation de travail, et c'est sa compétence. Est-ce qu'il aura justement la compétence pour travailler avec les autres, être efficace, produire, parce que derrière, dans toute entreprise, il y a bien évidemment un service, une production, un output, sinon il n'y a pas d'entreprise, et dans une organisation qui change. Et les trois exposés s'enchaînaient bien. Et nous sommes en bout de chaîne. Notre groupe, certes, c'est un groupe important en France, mais surtout, il est très important aussi au niveau mondial, puisque nous sommes présents dans 20 pays, ce qui nous permet de benchmarker un petit peu les modes de ressources humaines d'un pays à un autre. On s'aperçoit qu'il y a, le professeur Bartoli le rappelait, qu'il y a de plus en plus maintenant une uniformité, unification des pratiques en matière de ressources humaines. Nous travaillons sur la compétence. On passe entre nos mains, dans 20 pays, plus de 200 000 personnes sur lesquelles nous essayons de travailler sur les compétences. Compétences individuelles, mais madame le rappelait aussi, compétences collectives. Parce que vous pouvez mettre 10 personnes ensemble qui ont des compétences très fortes et ils sont incapables de travailler ensemble et de développer et de générer un output ou une compétence collective. Donc, on travaille sur ces compétences parce que les compétences sont nouvelles. Et je vais prendre un exemple simple. On est souvent interpellé. Je crois que la Poste, du reste, nous a interpellé à ce sujet-là. Mais les banques nous ont interpellé pour former, c'est basique, mais c'est important, le personnel d'accueil. Personnel d'accueil, celui que vous rencontrez quand vous allez devant un guichet. Personnel d'accueil, la personne qui accueille, elle doit d'abord renseigner. Elle renseigne. Et souvent des personnes qui ont des angoisses. Donc il faut qu'elle soit amenée à gérer le stress de la personne qui demande l'information, qui a besoin d'être guidée, surtout si c'est dans un milieu hospitalier. Parallèlement à ce renseignement, elle est agressée par quelqu'un qui attend, qui veut être servi tout de suite, et qui la secoue, qui l'agresse. Et il faut savoir déstresser la personne à qui vous renseignez, mais il faut aussi en même temps gérer son propre stress. En parallèle, elle a son écran d'ordinateur qui est affiché, et elle voit ses mails. Et il faut aussi répondre aux mails, sans oublier quelquefois le téléphone qui sonne ou le manager derrière qui l'interpelle. Voyez donc, à la fois le stress dans cette situation de travail, mais les compétences multiples qu'il est nécessaire en permanence de mettre en œuvre. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile. Et c'est difficile à gérer, à apprendre. Et c'est pour ça que, si on classe un petit peu les thématiques qui nous sont demandées par les entreprises pour améliorer cette polycompétence, il y a trois ordres. La première, et c'est la thématique la plus demandée, la communication. La communication orale dans une réunion, la communication avec les clients, avec ceux qui vous agressent. Vous êtes toujours en process de communication. C'est la communication par email aussi. C'est près de... Là-dessus, nous avons plus de 20 000 personnes que l'on forme sur ces thématiques de communication. La deuxième... Et là, je rejoins ce qu'a dit le professeur Bartoli, c'est les aider à être plus motivés, à être plus engagés. Et c'est vrai que nous participons, à travers notre filiale anglaise, à la mise en place, à l'explication de l'opération Gallup, qu'il décrivait. Comment aider les collaborateurs à mieux s'engager. On verra qu'on on va travailler sur le volet managérial, parce que la responsabilité appartient souvent aux managers et aux leaders. Et puis enfin, Madame le rappelait, donner de l'aide et de la formation pour aider, pour gérer mieux un projet. Toutes les grandes entreprises maintenant nous demandent de former leurs managers à la gestion de projet. Et mieux encore, vous avez des structures associatives, des structures mondiales, qui ont mis en place des outils de validation et des outils de certification de vos compétences en management de projet. Le PMI aux États-Unis, Prince en Angleterre. Et là, il s'agit de former des milliers de personnes. Pourquoi finalement il faut maintenant faire cela ? Ben parce que fondamentalement, l'organisation du travail a changé. Avant, le travail, l'organisation du travail était préemptée par le process industriel. Maintenant que le process industriel est second, que tout ça est renvoyé à des automatismes, ben l'individu se retrouve seul, soit devant le client, soit devant une page blanche. Et il faut qu'il apprenne à s'organiser, à produire quelque chose, avec le manager, bien sûr. C'est pour ça que les formations, 40% aujourd'hui des formations qui sont demandées dans les grands groupes, sont des formations en management et au leadership. Donc, notre rôle, c'est de former aux compétences générales, c'est aussi de former aux nouveaux modes de management. Et il y a eu une enquête qui a été faite récemment, je vous le dis dans un de mes blogs, une enquête qui a été faite par un groupe d'écoles supérieures sur toute l'Europe pour essayer de voir l'importance des fonctions, des formations managériales sur la productivité des groupes. Et on s'aperçoit que plus les groupes investissent dans la formation managériale, plus ils sont productifs. Parallèlement, ils ont essayé de définir ce qu'on entend par leadership. C'est un petit peu ce que disait Didier, le manager idéal. Je vais essayer de simplifier. Il a deux fortes composantes. La première, c'est être en empathie permanente avec ses équipes, les comprendre, donner du sens à leur action, donner une vision. Généralement, cette vision doit s'inscrire dans l'alignement de la vision de l'entreprise. Et être un contrôleur, un gestionnaire de process en même temps. Mobiliser et organiser. Ça, ce sont les leaders. Nous produisons, nous réalisons donc des formations pour cela. Exemple aussi direct que un des présidents d'Accenture Monde, dont je dirais le nom, me racontait qu'une de ses premières fonctions, il y a 2 ans quand il est arrivé, ça a été de convoquer tous ses directeurs généraux de tous les pays et de les assesser dans leur capacité à travailler en collaboration. Et tous ceux qui, soit par le passé, soit par l'assessment, n'avaient pas cette capacité à travailler avec les autres, ont été licenciés. Oui, ça, c'est un exemple direct de la nécessité de vouloir travailler, de travailler ensemble. Et la troisième conclusion que je dirais, c'est que tout ce que nous venons de dire, on pense, ça a un impact fort sur la relation du travail. La relation du travail qui se traduit par un contrat de travail. Puisque le lieu même du travail a disparu. Moi, j'ai des collaborateurs aux États-Unis qui n'ont pas de bureau. Ils travaillent en virtuel, pas dans un lieu. Donc le lieu, l'espace de lieu, tend à disparaître. Le temps tend à disparaître. Avec les emails venant du monde entier ou entre vous, on travaille tout le temps. Le rapport au temps comme un élément de mesure est très difficile maintenant à prendre en compte. Et puis la tâche, le geste, moi j'ai assisté à la conférence inaugurale, le geste lui-même, hein, répétitif, fort, disparaît, puisqu'il faut faire énormément de choses à travers la polyvalence. Tout ça, je veux dire, ça remet en cause la contractualisation, il faut redéfinir la relation du travail. Et ça, c'est un chantier énorme, qui tienne compte, bien évidemment, de sa rémunération. Faut-il faire une rémunération individuelle ou faut-il faire une rémunération à partir d'éléments collectifs, vous le rappeliez ? Probablement les deux. Donc, tout ça demande effectivement à être réinventé. Je sais qu'il y a des travaux pour réfléchir sur le passage du contrat de travail au contrat de prestation de services. Voilà, donc les quelques éléments concrets de réaction par rapport aux 3 exposés.
Merci. Voilà.